Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7,
6,
5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab.
La radio sauvage.
Mardi 27 janvier 2026, il est 6h avant minuit. Merci de nous écouter sur le 88.4 FM et DAB+ à Rennes et sur Radio Bois dans le reste de la Bretagne. Est-ce que tout le monde est inscrit sur les listes électorales, là ?
For
ben
sure.
Oui.
For sure.
L'a placé. C'est bien parce qu'il reste 8 jours, un petit peu plus d'une semaine pour s'inscrire et pour pouvoir voter aux prochaines municipales les 15 et 22 mars prochains. Donc n'oubliez pas, si ce n'est pas le cas, vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit ou inscrite ou alors faire la demande sur le site service-public.gouv.fr. Vous avez jusqu'au 4 février en ligne et jusqu'au 6 en mairie ou par voie postale. Tout de suite, le flash de Roman.
La dépouille de Raïm Gvili, dernier otage israélien du Hamas, a été rapatriée hier depuis la bande de Gaza. Ce retour marque la fin du dossier des otages, une condition posée par Israël pour relancer le plan de paix américain. Premier signe d'une possible suite, l'annonce par Israël de la réouverture partielle du point de passage de Rafah entre Gaza et l'Égypte, même si elle reste pour l'instant limitée aux piétons. Mais de nombreuses incertitudes demeurent, notamment sur le désarmement du Hamas et la mise en place d'une force internationale prévue dans la phase 2 du plan de paix de Donald Trump. Face aux contestations de sa politique migratoire, Donald Trump aurait bien besoin lui aussi d'un plan de paix. Et surprise ce matin, l'entreprise française de services numériques Capgemini a décroché des contrats avec l'ICE, la police anti-immigration américaine. Selon une enquête de l'Œil du 20h, le groupe aide à identifier et localiser des migrants en échange d'argent. Capgemini aurait raflé la plus grosse part du marché, jusqu'à 365 millions de dollars à la clé. Les termes du contrat sont clairs, plus la société localise de migrants, plus elle pourra empocher d'argent. L'entreprise affirme ne pas connaître le détail de ces contrats, signés par sa filiale américaine. Deuxième jour de procès pour Joëlle Guerriot, jugée pour avoir drogué la députée Sandrine Josso dans l'intention d'abuser d'elle. Les faits remontent au 14 novembre 2023. Ce soir-là, Sandrine Josso dîne au domicile de Joëlle Guerriot, à Paris, pour célébrer sa réélection en tant que sénateur. Après avoir bu du champagne, la députée se sent nauséeuse. Une analyse toxicologique révèle alors la présence de MDMA, un dérivé de l'ecstasy. À la barre, le prévenu a plaidé l'inadvertance. Il affirme avoir servi le champagne dans un verre contenant un produit qu'il aurait mis la veille pour son usage personnel. Sa version n'a pas convaincu le parquet. Le procureur de la République a requis 4 ans de prison, dont 3 fermes et 1 an avec sursis. Scroller de jour comme de nuit, à l'infini, enchaîner les vidéos de chats et les messages dans les groupes, et si c'était la fin pour les moins de 15 ans ? Le processus législatif a démarré hier à l'Assemblée nationale. Soutenue par le gouvernement, la proposition de loi de la députée Laure Miller a été adoptée en première lecture. Son article phare prévoit que l'accès à un service de réseau social en ligne fourni par une plateforme en ligne soit interdit aux mineurs de 15 ans, notamment Snapchat, Instagram, TikTok ou encore Facebook. Emmanuel Macron table sur une entrée en vigueur dès septembre. Septembre vient une procédure accélérée qui a donc voté pour cette proposition de loi, Estelle ?
16 voix contre 23, hier, la proposition de loi visant à interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans a été approuvée. Le texte proscrit également les téléphones mobiles pour les adolescents dans l'enceinte des lycées. Macron a salué le vote, le qualifiant d'étape majeure. Outre le camp gouvernemental, le texte a été soutenu par le Rassemblement National, l'Union des droites pour unir la République, les communistes, les indépendants de Lyot et une majorité des écologistes. A l'inverse, la majorité des socialistes se sont abstenus, tandis que les insoumis et 2 députés écologistes s'y sont opposés. Chez les opposants, une critique revient, celle d'une mesure difficilement applicable. Louis Boyard, député LFI, alerte sur un texte facilement contournable par les jeunes et qui pourrait nourrir un sentiment de défiance envers la classe politique. D'autres dénoncent une loi jugée répressive sans véritable accompagnement ni prévention. Malgré le quasi-consensus politique, cette proposition de loi a connu quelques aléas ces dernières semaines. D'abord, l'annonce à la fin de décembre d'un projet de loi similaire porté par le gouvernement. Une semaine après, l'avis du Conseil d'État évoquait des problèmes de conformité avec le droit européen et un risque pour les libertés fondamentales. Le texte a dû être reformulé et allégé considérablement.
Donc cette proposition de loi est conforme au droit européen.
C'est là que se situe un point de friction. Un amendement adopté de justesse pose problème. Il établit que les fournisseurs des réseaux sociaux garantissent que les mineurs ne sont pas exposés à une pression commerciale excessive et il interdit également la promotion de produits ou services susceptibles d'altérer la santé physique ou mentale des mineurs sur les réseaux sociaux. Laure Miller a regretté l'adoption de cet amendement. Elle le juge pas conforme au droit de l'Union européenne et pourrait conduire à un rejet du texte par la Commission européenne. En revanche, la principale difficulté du texte réside dans l'obligation de conformité avec le droit européen, plus précisément avec son règlement sur les services numériques. L'exécutif veut éviter un nouvel échec, comme celui de la loi Marcangeli adoptée en 2023 qui instaurait une majorité numérique à 15 ans. Elle n'a jamais pu être appliquée faute d'être conforme au droit européen.
Si le texte est validé sur le plan européen, comment cette interdiction fonctionnerait-elle concrètement ?
Déjà, il est bon de se demander pourquoi cette interdiction. Samedi dernier, Macron, toujours avec les lunettes de Top Gun, déclare « Les émotions de nos enfants et de nos adolescents ne sont pas à vendre ou à manipuler, ni par les plateformes américaines, ni par les algorithmes chinois. » Avec cette mesure, il estime pouvoir protéger la santé des adolescents. Donc, cette loi est censée protéger les mineurs de vidéos de chats broyés dans les mixeurs et d'images de tueries de masse, selon les mots de Laure Miller. Le constat est que les réseaux sociaux nuisent à la santé mentale des adolescents, mais sont également pointés la baisse de l'attention et le détriment du sommeil. Ces résultats figuraient déjà au cœur du rapport parlementaire sur les effets de TikTok sur les mineurs, dont Laure Miller était la rapporteuse. Pour que l'interdiction devienne réalité, un système de vérification d'âge devrait être mis en place. Un tierce de confiance, indépendant de l'État et des plateformes, pourrait vérifier l'âge via une reconnaissance faciale ou des documents d'identité.
Au-delà des réseaux sociaux, le texte va plus loin, non ?
Il prévoit aussi de restreindre certaines fonctionnalités sociales intégrées à des jeux vidéo, lorsqu'elles exposent les mineurs à des risques avérés. Cela pourrait concerner des fonctionnalités de jeux vidéo très populaires comme Roblox ou Fortnite. Autre mesure emblématique, l'interdiction du téléphone portable dans les lycées. Celle-ci a été réécrite et prévoit désormais que le règlement intérieur des lycées précise les lieux et les conditions d'utilisation. L'application d'une telle mesure suscite des inquiétudes au sein de l'éducation nationale. Les chefs d'établissement redoutent une contrainte supplémentaire et des difficultés en fonction des configurations des lycées.
Le texte sera examiné par le Sénat à la mi-février pour une possibilité d'entrée en vigueur dès le 1er septembre. S'il est définitivement adopté, la France deviendrait le premier pays en Europe à interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Un dispositif comparable existe déjà en Australie, où l'accès est interdit aux moins de 16 ans. Mais avant cela, le texte devra encore franchir un obstacle majeur, sa conformité au droit européen. Cran Montana, un drame qui n'en finit pas. Hier, des échanges entre le copropriétaire du bar suisse Le Constellation, Jacques Moretti, et l'un de ses employés sont rendus publics. Gaëtan, le barman, filmait la fragilité du plafond. Il teste la tenue des mousses acoustiques à l'aide de queues de billard posées sur des tabourets. Pourtant, la vidéo est claire, les mousses ne tiennent pas, l'une d'elles se décolle. Dans sa réponse, le propriétaire affirme, je cite, « Si elle tombe, il va falloir la laisser ». Gaëtan, grièvement brûlé le soir de l'incendie, a pu sortir récemment de l'hôpital. De nouvelles preuves accablantes contre les propriétaires de l'établissement suisse. Vendredi, la justice a libéré Jacques Moretti, copropriétaire de l'établissement, après le versement d'une caution. Une décision qui provoque l'indignation des familles de victimes dénonçant des mesures jugées trop légères. À Rennes, la municipalité de son côté serre la vis face à ces événements. Les contrôles surprises se multiplient dans les bars. Je suis allée voir ce qui se passait dans les établissements festifs rennais. Les voix montent, les cigarettes se consument. À quelques mètres du Satori Club, à Rennes, la file s'étire. Mais dans l'air, quelque chose résiste. Malgré l'envie de faire la fête, certains et certaines ont encore en tête le drame du Constellation.
J'ai une connaissance qui a été touchée, qui était dans ce bar et qui est malheureusement ressortie la moitié du visage brûlé.
Ça m'a tellement traumatisée que oui, Je vais regarder un peu où sont les versos de sécurité.
J'y vais pas forcément y prêter attention forcément en rentrant dans la boîte de nuit. Bah oui, juste je leur donne ma confiance, je paye l'entrée.
J'ai prévenu ma mamie que ce soir je sortais et elle m'a tout de suite dit de vérifier vraiment comment l'établissement était fait.
Les feux d'artifice qu'on met sur les bouteilles, c'est un peu artificiel, c'est superflu, il y a même pas besoin de ça quoi. C'est tant mieux qu'on les supprime.
Ça me fait pas peur. Ça va pas m'arrêter d'aller en boîte de nuit. Je vais quand même continuer à y aller.
Dans plusieurs établissements rennais, dont le Satori Club, l'Espace et le Tremplin, les bougies incandescentes ont été interdites. La mairie de Rennes prend aussi ses dispositions. Cyril Morel, adjoint délégué à la sécurité civile et à la vie nocturne, l'annonce. Bars, boîtes de nuit et restaurants à ambiance feront désormais l'objet de commissions de sécurité.
On avait fait en 2016 un certain nombre de visites d'établissements, notamment ceux qui avaient des sous-sols. Mais comme ce sont des petits établissements qui ne sont pas suivis régulièrement par la commission de sécurité, il est évident qu'on va, dans les prochaines semaines et les prochains mois, procéder à un certain nombre de visites de bars sur lesquels on aimerait bien vérifier que ça fonctionne à peu près normalement.
Il n'aura pas fallu attendre longtemps. Dès le soir même, des contrôles surprises dans plusieurs bars rennais. Pour Maxime Samson, propriétaire du Petit Vélo, place Saint-Michel, cette visite n'avait rien d'inattendu. Son établissement fait partie de ceux qui ne sont pas pleinement conformes aux normes. En cause, une alarme incendie défaillante et d'autres dispositifs de sécurité insuffisants au sous-sol.
Il y avait des choses qui n'allaient pas, la porte coupe-feu en bas qui était un peu bloquée par des fûts pleins. J'avais été livré, donc j'ai pas rangé. Mais dans une porte coupe-feu, c'est tout le temps fermé. Il y avait dans ma réserve, il y avait un trou dans le plafond, dans le placo et un trou dans le mur. Ça, on estime que c'est pas coupe-feu. Et surtout aussi, la signalétique de tout ce qui est extincteur, sortie de secours, qui n'était pas vraiment claire. Plein de petites choses, voilà, ils ont été hyper pointilleux. Ce qui est tout à fait normal vu le contexte en fait.
Il n'y a pas grand-chose en soi, mais il fallait que ça soit fait. Quoi.
Une liste de manquements entraînant la fermeture de son sous-sol. Maxime Samson a déjà lancé des travaux et demandé plusieurs devis. Il évoque une possible réouverture courant février, sous réserve de validation de la municipalité. À l'inverse du Petit Vélo, le bar Tio Paquito a dû fermer totalement ses portes. L'arrêté municipal pointe plusieurs défaillances, absence d'isolement, dégagement non conforme, manque d'équipement d'alarme et formation insuffisante du personnel à la sécurité incendie. Et hier, trois nouveaux contrôles de bars à Rennes ont entraîné des fermetures, le Tico's, le Sunset Café et le bar La Gasoline. Et ce matin, ce sont les écoles qui fermaient leurs portes. Un millier de personnes manifestaient devant le rectorat de Rennes. Six syndicats de l'éducation nationale et la fédération des parents d'élèves appelaient à la grève dans les écoles d'Ille-et-Vilaine. Objectif, dénoncer le manque de moyens et la dégradation des conditions d'enseignement dans le département, mais aussi le manque de suivi pour les enfants en situation de handicap, faute d'accompagnement par des AESH. Les syndicats annoncent que les difficultés rencontrées dans les écoles et le manque de moyens impactent la santé des enseignants. Je cite, 922 fiches d'incidents de santé au travail ont été établies dans les écoles d'Ille-et-Vilaine en 2024-2025. Cela représente 56% des fiches de l'académie. Une éducation sous tension jusqu'aux élections municipales et sur le terrain politique, ça se frite entre la maire Nathalie Appéré et Carole Gandon, opposante à la tête du groupe Rêver les Rennes. Le sujet de la dispute, la cérémonie de remise de cartes d'électeur à 400 jeunes, plus précisément la date choisie pour ce rendez-vous le mercredi 21 janvier, soit le même jour que la soirée de vœux de Charles Compagnon, candidat au municipal et soutenu par Carole Gandon. Je cite « Personne n'est dupe, ce n'est pas un hasard de calendrier, c'était un coup de communication financé avec des moyens municipaux au moment même où vous entriez en campagne, estime l'opposante. Elle annonce saisir la Chambre régionale des comptes pour vérifier la régularité des dépenses. Nathalie Appéré n'a pas encore répondu à ces accusations, mais son équipe se dit surprise par l'argumentaire de l'opposition.
Merci beaucoup Romane, for sure. On passe à l'interview.
Quelle heure
est-il ?
6 heures.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6 heures avant minuit.
De quoi on parle ce soir, l'Afghan ?
Eh bien, sur le plateau, chez vous ou dans vos voitures, est-ce que vous aimez les forêts ?
Ouais, bien sûr, c'est ressourçant.
Et est-ce que vous aimez les singes ?
Oui, ils sont mignons.
Et bien alors justement, installez-vous ce soir, nous parlons d'une expo art et science intitulée « Les yeux du magot ». Pendant un mois, elle sera accessible gratuitement sur le campus de Beaulieu. Pour en parler avec nous, Pull Bleu et Frange, la photographe Alice Palot. Bonsoir.
Bonsoir.
Lauréate de nombreux prix de photographie, vous avez accompagné en 2024 une équipe scientifique dans le parc naturel d'Ifrane au Maroc. Le but, valoriser le projet COUMAG. À vos côtés pour en parler, Pull Blanc et Lunettes, Pascaline Legoire, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes écologue, enseignante, chercheuse à l'Université de Rennes et vous vous êtes rendue sur le terrain avec Alice Palot. Pour commencer, Pascaline Legoire, est-ce que vous pouvez nous parler de COUMAG ? De quoi est-ce qu'il s'agit ?
Alors, COUMAG, c'est un projet de recherche qui dure sur 4 ans et qui vise à mieux comprendre comment les humains et les singes peuvent cohabiter dans un même espace. Donc, ça se passe au Maroc et on cherche à trouver des manières de vivre ensemble qui puissent être durables pour chacune des espèces, puisque le singe a tendance à venir dans les milieux humains, ce qui ne plaît pas forcément aux humains, surtout quand c'est dans les cultures. Mais en même temps, les humains viennent dans les forêts, ce qui ne plaît pas forcément aux magots, puisque c'est leur milieu. Donc on essaye de comprendre tout ça.
Et donc ce projet réunit plusieurs partenaires, plusieurs scientifiques. Combien de personnes il y avait et quels sont les partenaires de ce projet ?
Alors on était une équipe d'environ une trentaine. Alors dedans on avait beaucoup d'étudiants aussi, c'est pour ça que le chiffre je le donne de façon large, parce qu'il y a des personnes qui sont restées durant tout le projet et d'autres sur des parties plus courtes. Et on est en niveau des partenaires, il y a l'Université de Rennes avec notre laboratoire d'écologie et il y a aussi le laboratoire ESO de l'agrocampus qui travaille sur plutôt la partie humaine, ce sont des sociologues. Et nous avons également un collègue de l'Université de Lyon qui travaille beaucoup sur les mouvements, les déplacements des animaux. Donc ça, c'est pour la partie française. Et on collabore bien entendu sur le terrain avec des équipes marocaines, les gestionnaires des parcs marocains, des personnes qui gèrent également les aires protégées au niveau du Maroc et d'autres chercheurs d'universités marocaines.
Et avant de continuer, je vous propose d'écouter un petit extrait sonore. Est-ce que vous le reconnaissez ? Est-ce que vous pouvez nous parler, nous expliquer qui est le magot ?
Alors, je ne reconnais pas l'individu qui, bien sûr, parce qu'on les reconnaît surtout à leur tête. Mais j'ai entendu les oiseaux de la forêt et j'ai entendu des cris d'appel d'un magot. Ce petit cri qui ressemblait peut-être à des cris d'oiseaux pour certains qui ne sont pas habitués. Et donc, le magot, c'est un singe qui vit dans des forêts méditerranéennes qu'on va trouver au Maroc et en Algérie uniquement. Et c'est le seul macaque, qui est sur le continent africain. Tous les autres macaques sont en Asie. Donc ça en fait une espèce assez particulière d'un point de vue conservation, puisque il a une histoire évolutive vraiment particulière. Et il va vivre dans un milieu tempéré, alors que beaucoup de singes vivent dans des milieux tropicaux. Donc il va être habitué à des saisons. Là, en ce moment, au Maroc, c'est peut-être pas l'image que vous avez du Maroc, mais il y a des grosses précipitations de neige, là où sont les magots. Donc, il fait très froid l'hiver, très chaud l'été. Et donc, c'est un singe qui va vivre dans ses forêts au rythme de la disponibilité de ce qu'il y a à manger.
Un singe qui vit dans un contexte bien particulier, un écosystème particulier. Et Alice Palot, donc photographe, vous avez participé à ce projet dans le cadre d'une exposition. Pourquoi vous décidez d'intituler cette exposition « Les yeux du magot » et pas « Les mains ou les oreilles du magot » ?
Très bonne question, merci. Alors, on cherchait quelque chose qui soit à la fois mystérieux, énigmatique, et je pense que dans le regard, dans les yeux, il y a quelque chose, d'extrêmement important, puisque nous, en tant que artiste photographe pour ma part et chercheuse, on cherche à les regarder, à les observer pendant des semaines, des heures. Donc, les yeux du magot, c'est aussi un petit peu un retour, je dirais, à cette observation.
Le sous-titre de l'exposition, c'est « Cohabitation entre singes, humains et forêts ». Cohabitation avec un S, pourquoi ? Quelles sont ces plusieurs cohabitations ?
Alors, je dirais que tout le sujet de la recherche, justement, pour ma part, c'est par rapport à ces cohabitations, en effet, au pluriel. Et l'idée, c'est vraiment de venir traduire ces cohabitations en images. Et elles sont, en effet, extrêmement nombreuses. Les liens, les tensions sont nombreuses également. Donc, on parle de tensions, par exemple, et de liens sur les routes, dans les vergers, les pâturages. Voilà, plein de choses comme ça qui vont créer, à mon sens, des cohabitations différentes et qui peuvent prendre surtout plusieurs formes.
Vous commenciez à... Vous aviez quelque chose à rajouter peut-être à propos des...
Pas du tout. Juste pour compléter, c'est le pluriel, il a son sens parce qu'il vit vraiment dans une mosaïque d'espaces différents et il va rencontrer des humains différents, que ce soit des touristes, des agriculteurs, des forestiers, ce singe. Et il va voir différents humains et la façon de cohabiter ne peut pas être unique, ça va être adapté à chaque situation. Donc le S est très important.
C'est absolument ça, là vous commencez à l'aborder, mais le projet porte sur le magot, mais vous n'avez pas poursuivi des macaques durant des mois. Je lis que vous êtes allé à la rencontre des agriculteurs pendant 3 semaines en bordure de forêt. C'était important pour mieux comprendre l'espace forestier ?
Alors, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'en fait, il va mêler différentes disciplines scientifiques. Donc, en effet, à la fois les écologues, les sociologues ou bien hydrologues qui vont se rendre sur le terrain. Donc moi, lors de mon terrain sur place, donc en tant que photographe, j'ai pu aussi bien aller en effet avec des agriculteurs et les sociologues ou bien en forêt, en train quand même de suivre pour la plupart du temps les macaques. Donc on a passé beaucoup de temps en forêt, sur des temps assez longs. Hein. On se levait au lever du soleil, avant le lever du soleil, pour aller sur le terrain du magot qui se levait, donc vers 5h du matin. Et puis on rentrait vers 23h, 22h30, 23h, lorsque le magot se couchait pour bien suivre la trace de son dortoir. Donc je peux quand même dire qu'on a suivi des groupes de singes de très près.
Et les magots, ils s'alimentent dans les vergers, vous le disiez tout à l'heure, Pascaline, et ils posent problème aux agriculteurs. En parallèle, le magot, c'est une espèce menacée et protégée par le gouvernement marocain. Je vous pose la question à vous en particulier, Pascaline Legoire. Est-ce que votre étude, elle a donné lieu à une potentielle solution de cohabitation ? Qu'est-ce qui en est ressorti ?
Alors, on est en plein dedans puisque le projet n'est pas complètement fini. Là où Alice est venue et ce qu'elle traduit, c'est toute la phase, surtout diagnostique, de bien comprendre les relations qu'il y a entre le milieu du magot et les autres milieux autour. Donc là, on va avoir un atelier début avril avec les gestionnaires pour co-construire. Donc, on n'a pas une solution et il n'y aura jamais une solution. Mais par contre, on a des pistes d'idées pour limiter le fait que les singes viennent. Donc l'objectif finalement, c'est de rendre cet espace humain avec moins de bénéfices, qu'ils ne trouvent pas la nourriture dont ils ont besoin, qu'ils la trouvent plutôt en forêt, et que cet espace humain, il y a un peu plus de risques. Et comme ça, le singe va naturellement éviter ces milieux où il trouve plus de risques que de bénéfices. Donc les solutions, c'est surtout améliorer l'état de la ressource en forêt, qui est dégradée par plusieurs choses. Il y a le réchauffement climatique, donc ça c'est global. Tout le monde, enfin, on ne pourra pas avoir prise directement sur le temps du projet, mais par contre, une autre pression, c'est les moutons qui viennent pâturer en forêt, qui sont de plus en plus nombreux, parce que justement, les espaces où ils pâturaient avant ont été pris pour d'autres choses, pour mettre des cerisiers. Et les moutons ne mangent pas de cerises. Mais du coup, voilà, il y a un transfert qui explique l'interface et le fait qu'on ne peut pas penser forêt sans penser ce qu'il y a autour. Et donc, nos solutions vont être vraiment sur améliorer les états de la forêt. Et finalement, les vergers, ils sont intéressants pour les cerises, mais il y a aussi beaucoup d'herbes en dessous, qui, elle, n'est pas du tout intéressante pour l'homme non plus. Mais cette herbe, elle est là parce qu'on a irrigué, on a pris l'eau de la forêt pour irriguer. Mais peut-être qu'en enlevant cette herbe, là, il y aura moins de bénéfices. Les singes viendront peut-être moins, souvent, en gardant des gardiens. Enfin voilà, on a tout un système de solutions à la parcelle. Et après, il y a tout un système général à réfléchir avec les gestionnaires parce qu'on ne peut pas résoudre ça avec juste une solution.
Pour donner un petit peu plus d'image à nos auditeurs et auditrices, les photographies de l'exposition, elles ont des filtres de couleurs. Certaines sont plutôt vertes, d'autres rouges. Pourquoi ce choix artistique en deux temps, Alice Palot ?
Donc, moi, je suis artiste, photographe et pas photographe. Donc, c'est-à-dire que je vais donner à voir, à travers mes recherches visuelles, tout ce qui est non visible à l'œil nu. Donc, par exemple, j'ai travaillé sur les algues vertes. L'idée, c'était de rendre visible le toxique. Ici, justement, c'est ce qui était expliqué donc, dans le travail d'explication du projet lors de mon appel à candidature. L'idée, c'est vraiment de rendre visible toutes les actions anthropiques, les barrières invisibles, mais aussi les choses qu'on va moins voir, par exemple les méthodes d'enquête des scientifiques. Et donc de mettre en avant, à travers ces couleurs, la démarche scientifique notamment. Donc par exemple, j'ai utilisé une caméra à vision nocturne, donc qui est militaire, pour mettre en avant le fait que les scientifiques vont devoir utiliser presque des techniques de camouflage, vraiment être proche du magot, mais être le plus discrète possible. Donc en fait, ces couleurs, elles vont donner des clés de lecture pour une compréhension du sujet. Donc au lieu d'être dans une photographie qui est de l'ordre de l'événement et de montrer la conséquence, l'idée, c'est vraiment de transcrire, de traduire ces événements scientifiques en narrative visuelle et de vraiment raconter une histoire.
Et donc, le vert, vous l'avez dit, c'était plutôt pour l'aspect méthodologique scientifique, pour montrer aussi la manière, l'intuition dont les scientifiques avaient besoin dans les forêts, etc. Pour le côté rouge, qu'est-ce que ça représente ? Pourquoi avoir choisi un filtre rouge ?
Alors le rouge, à mon sens, c'est plutôt les actions anthropiques dont je parlais tout à l'heure. Donc aussi bien voilà, une route, un chien qui va apparaître, tout ce qui est en lien en fait avec ce qui peut potentiellement changer le comportement du magot. Par exemple, on voit aussi des branches de cerisier cassées. Donc là, à l'inverse, ce sont les impacts. Donc tout ce qui va être en lien de près ou de loin avec l'humain et voilà, un territoire de cohabitation forcément.
L'eau, est-ce que c'est une problématique qu'on retrouvera souvent dans l'exposition ? Parce que justement, sur ces photos rouges, on aperçoit souvent des paysages assez secs, assez arides. L'eau, c'est une problématique qui revient ?
Oui, alors je pense que voilà, hein, le Moyen Atlas est appelé le château d'eau du Maroc. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que les ressources en eau s'appauvrissent de jour en jour, notamment à cause du réchauffement climatique, mais pour d'autres raisons. Donc la problématique de l'eau est essentielle, puisque je pense qu'elle est aussi une des raisons du déplacement du magot dans la manière dont il va se nourrir. Et donc, oui, l'eau, c'est un événement, c'est un élément essentiel dans cette recherche et dans le narratif visuel, bien sûr.
Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est que cette question de l'eau, elle est apparue grâce au croisement entre nos savoirs écologues et le travail des sociologues. Puisqu'au début, ce n'était pas une question centrale quand on a posé le projet, puisque dans la recherche, on pose des projets. Et des fois, on a d'autres questions qui émergent. Et là, les sociologues nous ont amené cette question de l'eau qu'on n'avait pas pressentie parce qu'on était trop focalisé sur notre singe depuis nos précédents projets. Et grâce au croisement de ces disciplines, cette question de l'eau, elle est apparue. Elle a permis de dézoomer et de mieux comprendre le problème dans son ensemble. Et notamment, ce qu'explique bien Alice, le manque d'eau qui est lié à une sécheresse qui dure depuis au moins 6 ans au Maroc, qui est bien établie. On est dans un régime de grosse sécheresse. Et en même temps, ben, une demande en eau pour l'agriculture de plus en plus importante. Donc il y a deux facteurs qui se cumulent et qui font que la ressource pour les singes, elle est amenuisée. Et donc, c'était ce que je voulais souligner, c'est que cette question de l'eau, elle est apparue dans le projet. Elle a émergé grâce au fait qu'on fait de l'interdisciplinaire et pas seulement regarder qu'un objet.
Et ma dernière question, elle sera pour vous deux. Alice Palot, qu'est-ce qui vous a attiré au point de vous dire « Je pars dans un parc naturel au Maroc et pendant des semaines, je marcherai jusqu'à 15 heures par jour » Et de l'autre côté, Pascaline Legoire, pourquoi est-ce que vous choisissez Alice Palot pour vous accompagner sur le terrain ?
Alors, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de la biodiversité, des écosystèmes qui nous entourent. Et quand j'ai lu que le macaque de Barbarie était une espèce indicatrice de l'état des lieux de la forêt, j'ai trouvé que c'était passionnant de pouvoir justement dresser un état des lieux, notamment par rapport au réchauffement climatique, par rapport au comportement d'un animal. Et bon, évidemment, l'expérience est absolument exceptionnelle, l'expérience d'enquête, d'observation. Mais au-delà de ça, voilà, je trouvais que le comportement d'un animal à observer, qui puisse nous donner des leçons si globales sur notre monde abîmé, je trouvais que c'était assez exceptionnel.
Et de mon côté, alors c'est avec le service culturel de l'université qu'on a lancé l'appel à projet. Et on a eu plusieurs candidatures, mais celle d'Alice, elle est vraiment ressortie parce qu'elle collait vraiment à cette idée artistique. Dans le projet, on avait envie d'avoir un regard extérieur d'une artiste et pas une photographe qui reporter, qui allait pouvoir nous permettre de mettre de l'émotion et du sensible sur cette question de qu'est-ce que le singe peut percevoir, qu'est-ce que dans ce monde-là que nous on a du mal à peut-être à traduire au grand public, et aussi comment son monde mute, comment les humains interagissent avec ce singe magot. Et dans son projet proposé, ben on adorait l'idée des filtres, son travail précédent aussi sur les algues. Donc c'est vraiment cet aspect-là de rendre sensible des choses invisibles qui nous a touchés dans son projet.
Eh bien, merci beaucoup Alice Palot, artiste photographe choisie pour l'exposition Les yeux du magot. Et merci également à vous, Pascaline Legoire, écologue largement impliquée dans ce projet COUMAG. Si notre rapport à la biodiversité, le réchauffement climatique ou le métier de scientifique vous intéresse, alors n'hésitez pas. Rendez-vous dès demain et jusqu'au 20 mars au Diapason à Beaulieu. L'exposition est gratuite. Et notez bien, demain à 18h30, vous pourrez assister au vernissage et à une conférence en présence d'Alice Palot ainsi que l'équipe de recherche.
Merci. 6 heures avant minuit. 6 heures avant minuit.
On reste avec toi, Lafken, parce que c'est toi qui es derrière la chronique fake news de ce soir. On t'écoute. Fini de boire un coup, voilà.
Je m'hydrate un petit peu.
J'aurais dû faire durer mon lancement un peu plus. C'est bon ?
C'est tout bon.
Allez, à toi.
Les Britanniques sont réputés pour leur politesse, mais cela ne signifie pas que nous sommes prêts à commettre un suicide culturel. Nos institutions, l'Église d'Angleterre, la BBC sont une bande de haineux connards. Vous avez Sadiq Khan, le maire. C'est Londres, mon pote, pas l'Afghanistan ou Star Wars. Ces propos outrageants, il est évident que ce ne sont pas les miens, mais ceux d'Amelia, la nouvelle égérie IA de l'extrême droite britannique.
J'ai eu peur. Mais cette Amelia, elle vient d'où ?
Eh bien, à l'origine, cette jeune fille devait représenter tout l'inverse, c'est-à-dire le combat contre le racisme et la xénophobie. E-girl aux cheveux violets, Amelia vient d'un jeu vidéo éducatif lancé par le ministère de l'Intérieur britannique. Intitulé Pathways, ce projet de prévention cherchait notamment à informer les adolescents et adolescentes des dangers des discours anti-immigration. Utilisée dans plusieurs établissements scolaires, Amelia y tenait le rôle de la méchante, tentant de faire basculer le protagoniste vers le fascisme. Problème, celle qui devait être l'antagoniste est devenue l'héroïne de la droite extrémiste en Grande-Bretagne. Depuis, elle inonde les réseaux sociaux anglophones, comptabilisant plus de 57 000 abonnés sur X. Plus que cela, une crypto-monnaie Amelia a été lancée, dont Elon Musk a lui-même fait la promotion.
Et la naissance d'Amelia ne se fait pas dans n'importe quel contexte, non ?
Absolument, depuis plusieurs mois, le pays est confronté à une forte montée de l'idéologie xénophobe sur son territoire. En septembre, le Royaume-Uni avait connu la plus grande manifestation d'extrême droite de son histoire. C'est dans cette logique que la glorification du personnage IA s'est faite. Propagande de l'AIDS américaine, représentation des musulmans comme sales et violents, LGBT ridiculisés, le pire se fait de jour en jour. Avec certaines vidéos qui dépassent les 1,4 million de vues, Amelia est représentée partout, en manga, en chevalière, dans Wallace et Gromit ou encore Harry Potter. Récemment, les propos promptés par intelligence artificielle sont allés plus loin, avec des citations comme « Les musulmans n'ont pas besoin d'être sur notre île, ils veulent la conquérir. Ces dragons qui menacent notre Angleterre ne disparaîtront pas, à moins que de braves chevaliers ne se lèvent pour les tuer. » Vous l'avez compris, pire que des messages haineux, ce sont ouvertement des appels au meurtre et au nettoyage ethnique. Et si Amelia plaît, c'est aussi parce qu'elle est manipulable, une femme à qui on peut forcer à réciter des idéologies, une femme plastique, modulable, prête à servir et motiver les hommes dans chacune de ses vidéos. À cela s'ajoute la sexualisation, particulièrement grâce à l'IA controversée de X, Grok, que les internautes peuvent faire subir à Amelia. Finalement, peut-être qu'il aura fallu attendre l'arrivée de l'intelligence artificielle pour que l'extrême droite se trouve de nouveau soutien. Malgré tout, selon le ministère de l'Intérieur britannique, le programme initial de prévention aurait permis de détourner près de 6000 personnes des idéologies violentes.
Merci beaucoup, Lafken. Pas d'IA, nous, on est à l'ancienne, on a un répondeur téléphonique et je crois qu'on a un message ce soir, on l'écoute.
Le téléphone.
Téléphone.
Allô ? Allô ?
Syllab, la radio sauvage.
Coucou l'équipe de 6 heures avant minuit, c'est Benoît bien sûr, comme d'habitude.
Petite info de concert pour demain à l'UBU. Il y a l'artiste Forever Pavot qui jouera dans la salle mythique de Rennes, ainsi que la première partie du groupe rennais Vicky Verino que j'ai découvert au Transmusical de Rennes en 2022 avec un magnifique clip qui a été tourné à la ferme du Quinçay. Donc vraiment très très bon groupe, et puis surtout Nikita qui est une artiste incroyable, une artiste minorité de genre, donc voilà, bon, c'est mix quand même. Donc voilà, donc si vous voulez voir Vicky Verino et Forever Pavot à l'UBU, bah, c'est demain à partir de 20h. Vraiment aller avant, parce que c'est vrai que l'UBU, c'est une salle de chute, il y a toujours le poteau central. Donc vraiment, si vous voulez voir les deux groupes, et ben c'est demain à partir de 20h. En tout cas, je veille sur d'autres concerts dans le secteur de Rennes ou dans le secteur de Saint-Malo. Donc, voilà. Gros bisous à vous, ciao.
Merci Benoît, et oui, le poteau de l'UBU, indétrônable bien sûr. Faites comme Benoît, laissez-nous un message 02 30 96 25 35, on vous écoute et on diffuse ce que vous avez à nous dire à la fin de l'émission. Je voulais juste vous faire un petit récap sur les jeux concours. Dernière chance pour le concours pour le festival de danse Waterproof. Donc à gagner des places soit pour le spectacle Tatiana de Julien Dujard le mardi 3 février au Triangle, soit pour la Let's Dance Waterproof à l'UBU, encore une fois avec le poteau, le samedi 7 février. Pour jouer, un mot de passe.
Triangle.
Oui, bien joué Romane. Triangle, comme le nom de la cité de la danse rennaise qui organise l'événement. Dernière chance aujourd'hui, hein, le concours finit demain. Et sinon, en jeu aussi, deux places pour la release partie de Motion Cellar et Gondawa. Je vous laisse deviner où c'est encore.
À l'UBU.
Eh ouais, tout est à l'UBU. C'est organisé par l'asso Goslico le jeudi 5 février dès 20h. Et le mot de passe pour jouer et pour gagner. Est-ce que tu t'en souviens de celui-là, Romane?
Pressing.
Ouais, non. Ah, c'est après. Mais... là, c'est Sang Xian. Je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le nom d'un luth mongol dont jouent les musiciens de Gondawa. Donc voilà, pour gagner, on choisit Sang Xian. Et puis pour finir, en jeu également, deux places pour la Rennes Boxing Night, gala de boxe anglaise du Cercle Paul Bert de Rennes. Ça, c'est le samedi 14 février à 19h. Donc peut-être idée de cadeau de Saint-Valentin, des places pour aller voir de la boxe. À la salle, message passif-agressif, à la salle Colette Besson. Mot de passe pour gagner à rentrer sur notre site, Roman.
Pressing.
Oui, et ça c'est pas pour laver l'événement, c'est une technique de combat pour perturber l'activité adverse et prendre le dessus. Donc pressing pour jouer et gagner, rendez-vous sur c-lab.fr. Merci Maud pour la technique, à demain dans 6 heures avant minuit.
Radio Campus.
Radio Campus.
Oui, c'est ça.
Radio Campus Rennes.
J-12 avant les 30 ans de la radio Syllab.
Exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs du temps.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.